Derrière le masque, avec les soignants en Normandie.
Bonjour à tous, bienvenue dans Derrière le masque, le podcast qui, vous l'avez entendu, rend hommage au personnel soignant à travers toute la Normandie qui lutte depuis plusieurs semaines maintenant contre le coronavirus. Mais comment ne pas penser à ceux qui, hors des frontières de notre région, dans les régions les plus touchées comme le Grand Est ou l'Île-de-France, luttent également dans tous les hôpitaux. C'est le cas d'un jeune manchois de 25 ans. Romain est originaire d'Avranches et il est cadre de santé au sein du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Il a accepté pendant quelques minutes de nous confier ses états d'âme. Passons derrière le masque de Romain Fontaine, un jeune infirmier normand à Paris.
C'est vrai qu'il y aurait énormément de choses à raconter. La chose marquante a été vraiment la vitesse à laquelle l'épidémie s'est répandue et les patients ont augmenté en nombre parce qu'on s'est retrouvé à commencer faire des plans pour prévoir un nombre de patients. On a dû, en l'espace d'une semaine, augmenter très rapidement notre capacité d'accueil. Et là, ça a été vraiment à une vitesse à laquelle on ne s'attendait pas. Donc c'est ça qui a été très difficile à mettre en place. Et puis là vient maintenant la fatigue, puisque ça dure, ça va durer encore un moment. Surtout pour les services de réanimation, ça va durer probablement une bonne partie de l'été. Donc c'est comme un marathon où on a commencé par un sprint.
Est-ce que vous étiez préparé à ça? Est-ce qu'à l'école, on vous prépare à ce genre de choses?
Non. Je pense qu'on ne s'attend pas à faire face à une crise d'une telle ampleur. On est préparé à faire face à des situations difficiles, mais à des situations aussi difficiles et d'une telle ampleur, non, on n'est pas préparé.
Vous avez carrément parlé de médecine de guerre.
Oui, parce que dans la mesure où on doit mettre en place très rapidement une organisation tout à fait différente, on ne peut plus travailler dans la même zone de confort dans laquelle on travaille d'habitude. On doit changer nos pratiques, faire avec le matériel qu'on a, avec le même matériel, on doit prendre en charge deux fois plus de patients. Donc, c'est-à-dire qu'on doit vraiment modifier notre façon de travailler, notre façon de penser pour s'adapter le plus rapidement possible et prendre en charge le plus de patients possible.
C'est quoi le plus dur? C'est la gestion des patients, de savoir qu'on ne pourra pas tous les sauver?
Alors, la gestion des patients, effectivement, est très difficile, mais au début, forcément, surtout en réanimation, on est habitué à aller quand même de prendre les patients en charge, aller vraiment très loin dans leur prise en charge pour essayer de mettre en place tout ce qu'on peut pour les sauver. Là, on s'est vite retrouvé à des situations difficiles où malheureusement, au vu des nombres de places de réanimation, des patients qui avaient trop d'antécédents ou trop âgés, on a dû voir rapidement à prendre des décisions de assez rapides pour savoir si on devait ou non les admettre en réanimation. Donc ça, c'est très difficile. Prendre en charge les familles aussi, parce que toutes les visites ont été interdites. Forcément, les familles sont très anxieuses, ne peuvent pas voir leurs proches. Tout ce qui... on entend augmente leur anxiété, et donc essayer de les rassurer sans qu'ils puissent voir leurs proches, ça c'est très très difficile aussi.
On a beaucoup parlé de patients très âgés, il n'y a pas eu que ça?
Il n'y a pas eu que ça, non. On a eu, au début forcément, ça a touché peut-être plus les patients âgés, et quand le pic, c'est-à-dire les patients plus fragiles, quoi. Et quand le pic est arrivé, ça a touché tout le monde. On a eu dans le service des patients de 30 ans, de 30 à 60 ans. Donc vraiment des gens jeunes et des fois sans antécédents.
Romain, vous avez déjà un peu de recul maintenant sur cette épidémie, même si c'est difficile de dire ça parce que vous êtes encore en plein dedans. Ça a été quoi le plus marquant?
C'est sûrement la difficulté auprès des peut-être des familles, rassurer les gens, parce que l'inquiétude, vous voyez, la forte inquiétude des gens, et on est là, on essaye de mettre tout en œuvre pour les sauver, et on voit, il s'aggrave très vite, il s'aggrave des fois très très vite. Et même avec toutes les mesures en place, on n'y arrive pas à les sauver. Et ce qui a été aussi très marquant, c'est de voir les patients jeunes touchés, des patients de mon âge, hein, qui ont été dans un lit de réanimation et que malheureusement, on n'a pas pu toujours les sauver.
On a beaucoup parlé du manque de moyens. Il y a eu de la colère face à ça. C'est quoi votre état d'esprit ?
L'état d'esprit, quand même, la colère au manque de moyens, non, parce que c'est vrai que dans la mesure où ça c'est arrivé tellement vite, bon, on a essayé les hôpitaux ont quand même mis en place au maximum les moyens qu'ils pouvaient et réagir pour pouvoir prendre l'afflux de patients. Je pense qu'il y a quand même eu une belle solidarité dans les hôpitaux, on s'est largement serré les coudes pour pouvoir affronter les situations difficiles. C'est dans ces situations de crise un petit peu où on se serre les coudes pour affronter la difficulté.
Vous avez 25 ans, Romain, ça change forcément votre vision de la vie, non ?
Oui, forcément. Parce que quand on a encore une fois quelqu'un de notre âge qui se retrouve dans un lit d'hôpital en réanimation et qui malheureusement on ne sauve pas, forcément il y a une certaine on relativise un petit peu plus certaines choses, on prend du recul sur certains éléments, effectivement.
Vous l'avez dit tout à l'heure, faut tirer des conclusions de tout ça, il y a des choses qui doivent changer. Qu'est-ce qui doit changer dans le système de santé français ?
Alors, faut effectivement, cette crise a mis encore plus en lumière les éléments qui ne dysfonctionnaient dans la santé. Et je pense qu'il faut qu'on d'un coup s'en serve pour ça. On voit qu'on était, même si les hôpitaux ont mis tous les moyens en œuvre pour pouvoir faire face à cette crise, on voit qu'on n'avait quand même pas toutes les armes nécessaires pour y faire face, entre autres la réduction des stocks de, par exemple, de masques qui avaient été faits il y a plusieurs années. On se rend compte que là, bon, ça aurait été quand même intéressant d'en avoir un petit peu plus au niveau de la gestion du matériel, etc. Il va falloir réfléchir à d'autres pratiques là-dessus. Aussi, au niveau des... ça a fait réfléchir aussi sur les pratiques d'hygiène dans les hôpitaux parce que on a vu qu'il y a quand même la maladie se propageait par était manuportée par gouttelette, donc là il va aussi falloir mettre en œuvre des mesures pour avoir une hygiène encore plus accrue dans les hôpitaux et aussi sur les visites des patients. Est-ce qu'il faut... on a mis en place, par exemple, dans le service, un système de visioconférence pour les patients réveillés, pour qu'ils puissent interagir avec leur famille. Je pense que c'est des moyens qu'il faut qu'on continue par la suite pour des éléments qu'il faut qu'on continue.
Romain, j'ai encore trois petites questions. La première, c'est comment vous avez vécu le soutien de la population, ces fameux rassemblements, ces applaudissements à 20h ?
Alors, ça nous a tous fait extrêmement chaud au cœur de voir, parce que forcément, on est une situation difficile, on vit un petit peu Covid, en fait, parce que on arrive au travail, on fait face au coronavirus toute la journée, on sort, on est relayé par l'information qui est exclusivement ou pratiquement sur le coronavirus. Nos proches nous appellent coronavirus, donc c'est difficile de se déconnecter et de souffler un petit peu. Donc il y a une fatigue morale. Et donc de voir le soutien de l'ensemble de la population, ça rebooste. On a eu énormément d'associations qui sont mobilisées pour améliorer un petit peu notre quotidien en faisant des dons de nourriture. Beaucoup de gens nous ont écrit. Par exemple, ce matin, on a reçu dans le service la lettre d'un jeune de 12 ans qui, nous remerciant des efforts que nous faisons quotidiennement et ça touche énormément et ça permet, ça motive à continuer et à ne pas baisser les bras malgré la fatigue.
Vous avez eu peur ? Vous avez peur ?
Peur, oui, parce que c'est une maladie nouvelle. On tâtonne encore pour la traiter et on voit que ça touche tout le monde. Parce qu'au début, on se disait, bon, voilà, ça touche les populations les plus fragiles. Là, en fait, on s'aperçoit que ça touche tout le monde. Donc forcément, ça fait peur. J'ai eu peur et j'ai encore peur parce que on ne sait pas comment ça va évoluer. Le déconfinement arrive au 11 mai. Je ne le remets pas en doute du tout, mais voilà, forcément, on aura un rebond derrière de décontamination. Voilà, ce qui me fait peur, c'est voilà le temps que ça va durer.
Dernière chose, c'est quoi le message que vous avez envie de passer aux gens aujourd'hui ?
Déjà, les remercier énormément de leur soutien, et ça vraiment. Pour leur dire que ça nous a fait extrêmement chaud au cœur, mais aussi que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, que peut-être au début on s'est dit c'est une grosse grippe, ça va passer, ça va passer. Là non, c'est pas quelque chose qu'il faut qu'on prenne à la légère. Il y a des mesures barrières qui ont été mises en œuvre. Il va falloir continuer à les respecter, même après le déconfinement. Pour ne pas qu'on se trouve avec un afflux de contamination à nouveau et qu'on remette derrière un système de confinement, etc. Donc vraiment, je pense qu'il faut faire très attention à nos pratiques, se laver les mains, prendre du gel hydroalcoolique, vraiment réfléchir à tout ce qu'on fait pour éviter de contaminer les gens, parce que c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Et ça touche tout le monde.
Podcast by Tendance Ouest.